Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Argentine, Silvina Batakis, nouvelle ministre de l'économie. Chili, la convention constituante, a présenté le texte d'une nouvelle constitution. Miguel Echecolas, l'un des pires tortionnaires de la dictature en Argentine, est mort en prison. Brésil, l'inflation au cœur des préoccupations à 3 mois de la présidentielle. Silvina Batakis est la nouvelle ministre de l'économie de l'Argentine suite à la démission de Martin Guzmán. L'accord pour la nommer est intervenu après un dialogue entre le président Alberto Fernández et sa vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner qui ont des divergences sur certains aspects de la gestion économique. Guzmán, l'un des ministres les plus proches du président, faisait partie du gouvernement depuis l'investiture de Fernández en décembre 2019. L'économiste s'est distingué en menant les négociations avec le Fonds monétaire international, qui ont abouti à un accord sur le remboursement d'une dette de 44 milliards de dollars. Miguel Echecolas, l'un des pires tortionnaires de la dernière dictature en Argentine, est mort le 2 juillet à l'âge de 93 ans. Il était hospitalisé pour des problèmes de santé, alors qu'il purgeait 9 peines de prison à vie pour des crimes contre l'humanité, commis entre 1976 et 1983. Lors de ses procès, il était reconnu coupable d'avoir ordonné la torture et la mort de détenus dans plus de 20 camps de concentration de la province de Buenos Aires, dont il avait la charge en tant que directeur des enquêtes de la police. Ces crimes incluent l'enlèvement et la disparition de lycéens dans ce qui est entré dans l'histoire sous le nom de « Nuit des crayons ». Par ailleurs, 4 anciens officiers militaires ont été condamnés à la prison à vie pour des vols de la mort pendant la dernière dictature civilo-militaire qui consistait à jeter à la mer des détenus disparus vivants et drogués qui se trouvaient dans les centres clandestins, comme ceux qui fonctionnaient dans l'ancienne école de mécanique de la marine, la plus grande du pays, ou à Campo de Mayo. La convention constituante au Chili a conclu ses travaux lundi en livrant la proposition d'une nouvelle constitution pour remplacer celle sanctionnée par la dictature d'Augusto Pinochet en 1980, laquelle sera soumise à un plébiscite le 4 septembre pour approbation ou rejet définitif. La rédaction d'une nouvelle constitution était l'une des revendications des manifestations massives de 2019, dont l'actuel président, Gabriel Boric, est apparu comme un leader. Elles sont nées du rejet de l'augmentation des tarifs des transports publics dans la capitale Santiago, mais sont devenues l'expression du rejet du modèle économique hérité du pinochetisme. Brésil, l'inflation au cœur des préoccupations à 3 mois de la présidentielle. Le Brésil est le 3e pays d'Amérique latine le plus touché par l'inflation, derrière le Venezuela et l'Argentine, avec une hausse de 12% en un an. Essence, diesel, denrées alimentaires, les prix augmentent, mais pas les salaires, ce qui contraint les Brésiliens à changer leurs habitudes de consommation. Voici un rapport de Radio France Internationale.
Essence, diesel, produits alimentaires au quotidien, les Brésiliens subissent depuis plusieurs mois l'inflation. Elle a explosé de 12% en un an. Le pays est le 3e le plus touché par la hausse des prix en Amérique latine, derrière le Venezuela et l'Argentine. Les salaires, eux, ne bougent pas, ce qui pousse les consommateurs à changer leurs habitudes. Même si les plus pauvres reçoivent désormais une nouvelle aide du gouvernement à hauteur de 80 euros, ce n'est pas suffisant. Reportage à Rio de Janeiro de Sarah Cozzolino.
Lorena est descendue de sa favela pour se rendre dans ce supermarché du centre de Rio qui fait souvent des promotions.
On passe notre temps à l'affût des prix. Regardez mon amie là, elle revient d'un autre supermarché où elle a pu acheter du papier toilette parce qu'ici, c'est trop cher.
Depuis un an, il y a certains aliments qu'elle a dû arrêter de manger à cause de leur prix.
La viande, le fromage, il y a des choses qu'on ne peut plus consommer.
Cette vendeuse ambulante mange désormais de la viande une fois par mois. Et même avec l'aide du gouvernement de 80 euros, elle n'a pas assez pour payer son loyer dans la favela où elle habite.
Ça fait 5 ans que je suis au chômage, alors je fais ce que je peux. Il y a des jours où je vends un peu mieux, d'autres moins. C'est comme ça que je survis, parce qu'ici, on ne vit pas, on survit.
Survivre dans cette période difficile, c'est aussi ce qu'essaie de faire Leonardo derrière son étal de fruits et légumes sur un marché de la zone portuaire.
Que ce soit comme vendeur ou consommateur, c'est aussi difficile de vendre que de consommer. Moi, je ne mange plus que des œufs et des tomates.
Les derniers records d'inflation s'expliquent avant tout par des facteurs externes, selon les économistes. La pandémie qui a ralenti la production et la guerre en Ukraine qui a fait monter les prix du blé, du gaz et surtout du pétrole. Dans le centre de Rio, 42 familles vivent dans un squat légalisé depuis une quinzaine d'années. Au mois de septembre, 6 membres de l'occupation ont ouvert un restaurant au premier étage pour que les travailleurs les plus précaires du quartier puissent manger correctement le midi.
Quand nous avons ouvert, le prix minimum était à 15 reais et on est déjà à 20. Notre menu s'adapte à ce qu'on trouve de moins cher sur le marché.
Lourdinha Lopes est une figure du mouvement de lutte pour le logement à Rio. Alors même si le personnel du restaurant n'arrive pas à se rémunérer tous les mois, elle milite pour que ce lieu existe.
Si on arrive à se maintenir aujourd'hui, c'est parce qu'on est une toute petite équipe. Mais ici, il y aurait du travail pour 12 à 15 personnes.
Attablé devant son plat du jour au poisson, Marcelo, professeur dans l'enseignement public, vit une situation financière de plus en plus difficile.
Ça fait plus de 3 ans que notre salaire n'a pas été réajusté et on a calculé que cela représentait une perte de 28% de notre salaire en fonction notamment de l'inflation. Pour vous faire une idée, la valeur de notre ticket resto n'a pas été revue depuis plus de 10 ans. Il est autour de 12 reais et on ne peut rien acheter avec ça. Donc ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des profs obligés de chercher un deuxième emploi ailleurs pour réussir à boucler la fin de mois.
Depuis le gouvernement du président Jair Bolsonaro, la faim a explosé au Brésil. Une situation inacceptable selon Carmen Diniz, avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme.
Nous avons 33 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et nous avons 120 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'elles mangent aujourd'hui sans savoir si elles vont manger demain. La moitié de la population. Et on veut que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de vol, de braquage. Bien sûr qu'il y en a. Si ma fille était en train de mourir de faim, je ferais la même chose.
Alors que selon un récent sondage, un Brésilien sur 4 dit manquer de nourriture à la maison, l'ancien président Lula a fait du pouvoir d'achat un de ses principaux thèmes de campagne. Un message qui aura son importance lors de l'élection présidentielle dans moins de 100 jours.
Tout le monde maintenant danse très simplement le tango. Les femmes surtout dansent ça comme un cuisine gigot. L'été tango regorge d'un tas de numéros qui mangerait plutôt que de rater un tango. Bonjour à tous, je suis Denise Chamarella, à la tête de l'orchestre féminin Chamarella Tango, avec un répertoire très révolutionnaire, grâce à la révélation des liens inconnus entre la culture française et notre musique citadine. Ce message est pour vous inviter à la Fiesta de la Bastilla, qui aura lieu le 14 juillet à La Cigale, le bar qui se trouve en plein cœur de Buenos Aires, rue 25 de Mayo 597. Il est possible de réserver par WhatsApp ou par Facebook via La Cigale Bar. Nous vous attendons nombreux pour des tangos francophiles, tels que la version française d'El Choclo qui date de 1912 et qui parle d'une Française qui est enceinte, sur le point d'accoucher et qui pourtant ne peut pas s'empêcher d'aller danser à une milonga.
Elle se jette dans les bras d'un homme, ses jambes sont comme de la boule de gomme. Naturellement, le médecin n'est absent. Qu'on l'aille chercher, c'est sûr qu'elle va coucher. Et qu'en venant, il apporte un berceau important. Elle pourrait bien y avoir 4 ou 5 enfants. Car un canfon facisso al mar, con tu bandera y en un perno mezclo a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacani la pebeta, por vos chucheta canarreo y misiadura, se hicieron pauses al nacer con tu destino, misa de faldas, querosentajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón, por tu milagro de no. Las agoreras nacieron sin pensarlo, las paicas y las grelas, luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Misa de faldas que no se que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
Des confins de la cordillère des Andes aux pampas du sud de Buenos Aires, voici la première partie d'un parcours sur les routes de l'impossible en Argentine, proposé par Daniel Lenné et Mathieu Orcel.
Sa couleur se confond avec celle de ce désert de terre et de roches. C'est une de ces villes du bout du monde dont on se demande ce qu'elles font là. Perché à 3800 mètres, en pleine cordillère des Andes. Sur ces terres de solitude, ils sont inséparables. Le vieux camion de 45 ans, son propriétaire Lenke et son copilote Manuel. Depuis 15 ans, chauffeur-livreur de haute altitude, il transporte de tout. Aujourd'hui, ils ont pour commande de rapporter du foin aux éleveurs de leur village.
130 km pour l'aller et 130 km pour le retour.
Pour l'instant, tout va bien. Mais en chemin, on va sûrement avoir des problèmes, c'est sûr.
À moins d'y être obligé, rares sont ceux qui se risquent sur les 130 km qui séparent San Antonio de las Cobres de Payo Gasta. À 5000 mètres, la piste tutoie le ciel. Et l'air est rare, même pour les moteurs. La piste déroule ses lacets, à peine plus large que le camion, et bordée de précipices. Une seconde d'inattention, et c'est la plongée dans le vide.
Ahí nos marcha atrás, bloqueador.
Muy angosta. Acá tenés que hacer maniobra.
Le camion n'a pas assez d'espace pour tourner. On est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois pour passer.
Non, non, pas ça. Non. Si tu vas à la delantera.
Chaque virage est à négocier. D'autant que les freins du camion sont fatigués et peuvent décider de se mettre en grève à tout moment. C'est comme ça qu'il y a un an, Manuel et Lenke ont perdu un de leurs amis.
Il devait être 19 ou 20 heures par là. En pleine descente, ses freins ont lâché. Il a essayé de contrôler le camion, mais il n'y est pas arrivé et il est tombé dans le précipice. Nous, on a l'habitude de dire qu'on sait quand on s'en va, mais seul Dieu sait si on reviendra.
Pas le temps de s'attarder. Manuel et Lenke le savent, la nuit va bientôt tomber, rendant la conduite encore plus dangereuse. La démesure argentine, c'est ça. 3700 km du nord au sud, 1400 d'est en ouest, et autant de routes, de pistes, de pièges. Chaque année, les eaux du ciel fertilisent les terres basses.
Je ne sais pas si je vais y arriver. La lagune continue de monter et je ne sais pas jusqu'où.
Obligeant Pablo à braver sentiers engloutis et lagunes profondes pour livrer son lait. À bord de sa vieille ambulance, mais bien souvent à pied, Alicia, la médecin, sillonne les hauts plateaux pour porter secours aux populations les plus isolées.
On monte. On commence à sentir la déshydratation, la bouche sèche.
Et parce que la nature les défie sans cesse, les hommes de la Pampa, les gauchos, ne cessent de relever le gant. Du risque, ils en font une fête. D'une épreuve de courage, un spectacle. C'est le rodéo.
Pour moi, la plus belle victoire, c'est de rentrer en un seul morceau.
Entre les sommets, dressés comme des sentinelles, Mama Kia, la déesse Inca de la Lune, veille sur Manuel et Lenke. Les deux camionneurs n'aiment pas rouler la nuit, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont attendus, même à cette heure-ci. Et c'est en pleine nuit qu'il faudra commencer le chargement.
Chaque botte de foin pèse 20 kilos. Et au total, on va en charger 4 tonnes. On pourrait en charger bien plus, mais si c'est trop haut, ça va balancer et ça va être plus dangereux.
À 3 heures du matin, le chargement est enfin terminé. Les deux hommes ont besoin de refaire le plein de calories.
Ça, c'est la tradition des camionneurs argentins. On s'arrête là où on peut, pour préparer le repas. Et ensuite, on repart. Parce que sur cette route, on ne trouve pas de restaurant. Et la route est très difficile. Et les villages par lesquels on passe sont très espacés.
Les deux hommes ont à peine le temps de se reposer. Il faut déjà repartir.
On est très fatigué parce qu'on n'a dormi que 3 heures. Mais bon, il fallait qu'on reparte pour être dans les délais prévus.
Mama Kia s'en est allée, et avec le jour, les deux chauffeurs découvrent l'état de la piste. Il fait froid, à peine 0 degré. À ces altitudes, il gèle 220 jours par an. Des plaques dont même le soleil ne vient pas à bout. La glace, Manuel s'y connaît. Il sait comment la combattre. Je mets de la terre sur la glace pour que le camion ne patine pas, parce que la glace, c'est dangereux. Mais ces quelques pelletées de terre seront-elles suffisantes? Le camion est chargé. Bientôt, les premières neiges feront leur apparition. Quand elles recouvrent les sommets, elles masquent aussi les plaques de glace aux yeux des camionneurs.
Heureusement qu'il n'y avait pas de neige. On est bien passé. Ça aurait pu être plus compliqué.
Sans chauffage dans leur cabine, le froid engourdit les mains et l'esprit. Manuel et Lenke préfèrent démarrer doucement.
On va prendre un peu de maté, parce que le voyage commence à être long et la descente difficile. Le maté, ça nous délasse. Je vais y rajouter du café.
Le maté, c'est l'infusion traditionnelle à base d'herbe. Le vieux camion avale les kilomètres avec courage. Mais à son âge, on n'est jamais à l'abri d'un pépin de santé.
On a un bruit bizarre. On va s'arrêter là pour vérifier le camion. Ça vient de derrière. Je vais voir où est le problème.
Le pignon est ressorti. Je ne pensais pas que ça casserait. À cause de cette panne, une fois, on est déjà resté coincé 2 jours sur la route. Quelle saleté, ça a encore lâché. Je ne peux pas laisser le camion ici.
C'est la transmission du 4x4 qui a encore lâché. Pour repartir, une seule solution. Retirer l'axe. Si ça tient, les deux hommes pourront franchir les 5 km qui les séparent encore de la ville.
On a eu de la chance. Parfois, quand on est sur une route difficile et qu'on a des problèmes mécaniques comme ça, ça devient vraiment très compliqué pour nous.
Ça casse et ça passe. Telle pourrait être leur devise. Mais c'est forcément du provisoire.
Bueno, llegamos.
Sans double traction et avec la neige qui vient, le camion est condamné à l'immobilité. Leur prochain voyage est compromis. À quelques rues de chez eux, Alicia, la médecin de campagne, part soigner une petite fille qui habite dans une ferme isolée, située à 4700 mètres d'altitude. Avant d'y arriver, Alicia va devoir traverser la Puna, 120 km d'un plateau aride et pratiquement désert.
C'est très difficile pour nous d'aller les voir. Mais c'est presque impossible pour eux de venir à l'hôpital. Dans la Puna, ils sont entre 10 et 12 000 personnes vivant isolées, sans moyen de transport ni de communication. Je dois vraiment aller les voir.
Alicia a déjà parcouru 120 km de piste, mais c'est là que le voyage se complique.
Là, on va arriver dans un endroit où la voiture ne peut plus passer.
Une fois quitté le confort relatif de l'ambulance, la tournée d'Alicia prend des allures d'aventure.
Aujourd'hui, pour ma visite médicale, j'ai la chance d'avoir ce cheval. Parce que j'aurais dû y aller à pied. Et à 4000 mètres, c'est beaucoup plus fatigant.
Son infirmier la guide. Le chemin est encore long. Quatre heures de montée sous ce soleil et à cette altitude, ce n'est pas une promenade de santé, ni pour les hommes, ni pour les bêtes.
Il ne veut plus monter avec nous. Il ne peut plus suivre.
La pente est trop forte. Ça monte dur. Et l'animal n'y arrive pas avec une telle charge. On va le laisser là.
Ce n'est pourtant pas la première fois qu'Alicia emprunte ce chemin. Mais l'effort est toujours aussi pénible.
On n'arrête pas de monter. Toujours monter. Et avec cette chaleur, je me déshydrate. J'ai la bouche sèche. Je sens mon cœur qui cogne. J'ai mal au crâne et peu d'oxygène.
À cet instant, Alicia vient de franchir la hauteur du Mont Blanc. 4800 mètres d'altitude.
C'est dans ces moments-là que je pense à Dieu. J'aimerais qu'il m'aide. C'est incroyable que des gens puissent vivre ici. Et en plus avec des enfants.
Après 4 heures de calvaire, la médecin retrouve sa petite patiente.
Tout ce chemin que j'ai fait pour en arriver ici, ça en valait la peine.
En Argentine, l'accès aux soins est gratuit. Alicia est payée par l'État. Sans elle, la plupart des familles de la Puna n'auraient pas accès aux soins.
Et ainsi se termine ce programme français de Rail Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.